Donc, nous attaquons notre session, comment créer ensemble de la valeur sur nos territoires. Et je vais la poser tout d'abord à M. Christian Arbulot, puisqu'il est directeur d'école de guerre économique. On pourrait penser qu'il est tout à fait étranger à ses préoccupations. Donc, M. Arbulot, si vous voulez donner votre point de vue.
Alors, en fait, je ne suis pas tellement étranger à cela parce que la première préoccupation qu'on a, c'est de partir de un peu des constatations de l'historien Fernand Braudel, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre éventuellement le marché et le territoire. Il y a un rythme de développement, il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, on voit effectivement des réalités qui sont... disons de plus en plus présente dans nos esprits pour bien faire la distinction entre ce que j'appellerais la volonté de construire de l'homme et aussi sa volonté de détruire ou d'être prédateur. Si je prends un exemple tout simple, j'étais au Pays Basque Nord il y a un an et demi, ils ont des produits de terroir intéressants et il suffit qu'il y ait une demande japonaise et chinoise qui arrive et qui déstabilise l'ensemble de leur équilibre local. Quid de la valeur de ces produits terroirs, s'il faut en produire plus, s'il faut en produire ailleurs, s'il y a de la contrefaçon, quel est le dialogue entre les producteurs, quel est le rapport du politique au devenir d'une économie locale fortement impactée par l'image de ces produits de terroir. Et là déjà sur un cas comme ça, on voit très bien que s'il n'y a pas de stratégie, parce que j'ose employer ce mot-là, s'il n'y a pas de concertation entre des acteurs d'origine très différentes, eh bien on peut aboutir exactement au contraire du point de départ avec les pires catastrophes. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'éléments d'information qui apparaissent comme ça. Je déjeunais avec quelqu'un qui est dans la salle, qui s'appelle Dominique Dizer, qui gère aujourd'hui le restaurant Écluse sur Paris, et qui me parlait d'une approche chinoise sur un vin de Bordeaux, et la démarche est toujours la même, c'est-à-dire que si on commence à fabriquer des étiquettes en chinois pour faire une marque chinoise qui va s'exporter vers la Chine, on met le doigt dans un engrenage qui au départ est très intéressant parce qu'on gagne beaucoup d'argent, et à la fin, on perd tout à fait la finalité de l'objet, de la création d'une famille, d'une activité locale, d'un savoir-faire, etc. Donc l'entrée dans la mondialisation, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une euphorie, c'est quelque chose qui malheureusement s'écarte beaucoup de principes humanistes dont on aimerait être emprunt et que dans lequel moi je me retrouve complètement. J'ai assisté aux rencontres du Mont Blanc de l'économie sociale une fois et ça m'a apporté énormément de choses et j'ai découvert aussi des choses et je pense, si vous voulez, que notre problème part de là, c'est-à-dire on ne peut pas tendre la main systématiquement, ce n'est pas si simple. On ne peut pas être des acteurs euphoriques du mouvement, ce n'est pas si simple. On ne peut pas être des adorateurs de l'entreprise non plus, ce n'est pas si simple. Et je me situe, moi, dans une posture qui est simple, qui part de quelques pointes de touche que j'ai eues aussi bien avec le monde agricole que l'industrie agroalimentaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en viens au terroir, c'est quand je vois l'échec du système américain en termes de mode d'alimentation, en termes de vie sociétale, en termes de bilan de santé publique, hein, on a des statistiques qui tombent régulièrement, je m'interroge sur la finalité d'un système, sur la finalité d'une industrie, sur la finalité du comportement d'agriculteurs, et pour moi, donner à manger aux gens, c'est les aider à vivre, c'est pas les aider à devenir malades ou mourir. Donc ça, c'est une grande stratégie pour l'Europe, pour la France, mais vous savez bien, comme moi, et tout le monde le sait ici, que il y a énormément de contradictions, de divergences, d'opinions, d'objectifs, de rentabilité. Et je me souviens d'une séance qui m'a bien marqué dans une assemblée générale de la FDSEA Île-de-France, j'étais face à des agriculteurs, où les anciens présidents de ce syndicat, le président en titre, disaient qu'il faut réécrire les fondamentaux de l'agriculture. Et en face, il y avait des agriculteurs qui pensaient d'abord, et je les comprends, mais ça a une limite à leur porte-monnaie. Et le problème, c'est que, oui, c'est normal qu'ils passent à leur porte-monnaie, à condition de ne pas finir comme un système tel que sont aujourd'hui les États-Unis d'Amérique en système de mode alimentaire. Et là, il y a une grande différence. Il y a une responsabilité collective. Le porte-monnaie n'est pas une fin en soi, quelle que soit la personne qui est impliquée. Nous sommes tous impliqués dans ces logiques-là. Donc, si vous voulez, moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui, elle est plutôt d'être un observateur extérieur du monde dans lequel vous êtes, mais avec quand même à la fois une réalité civique, c'est-à-dire je ne veux pas, moi, en tant que citoyen, voir ce pays aller vers le n'importe quoi alimentaire, vers le n'importe quoi agricole et vers le n'importe quoi en termes de mode de vie. Pour moi, ça serait catastrophique, même si le porte-monnaie de certains se remplisse. C'est pas mon problème. Et deuxièmement, j'entends bien le mot stratégie, c'est-à-dire je pense que pour l'Europe, comme pour la France, il y a des enjeux stratégiques et qu'il faut savoir les relever. Et ce sont des enjeux économiques, c'est-à-dire que derrière, il y a un enrichissement, il y a des créations d'activités, il y a des défenses de labels, de terroirs, de territoires, d'idées de produits, de systèmes de vie, de modes de vie. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, c'est dans ce combat-là que je m'inscris. Je ne suis pas forcément économie sociale, mais j'apprécie ce dialogue, comme avec d'autres d'ailleurs. Et à titre purement humble et modeste, c'est bien là que je me situe. Et le deuxième point qui me semble important, c'est que mon métier à moi, c'est à quoi sert l'information pour se développer et pour vendre. Mais pas vendre n'importe quoi et pas pour se développer n'importe comment. Et cette logique, si vous voulez, d'appréhension des rapports de force, que je constate aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas facile à faire passer. Je prends un exemple, dans un sens purement positif. Ça fait 15 ans qu'on essaie de mettre au point un guichet unique d'information pour parler des recettes qui marchent pour redonner vie à des territoires, pour redonner vie à des lieux où l'emploi a disparu, où des activités économiques ont pu renaître de ces zones. C'est un sujet très simple, mais qui rejoint aussi ce qui se passe dans le monde agricole. On n'y est pas arrivé, pour l'instant. Mais c'est un objectif. Et des objectifs comme ça, si vous voulez, là je parle des aspects positifs, quand je vois des bons exemples où différents acteurs se mettent ensemble pour créer de l'activité. Je pense à l'activité du surf dans le Pays Basque, où je vois des universitaires, où je vois un pôle de compétitivité, où je vois se mailler un certain nombre d'énergies, je me dis qu'on est sur la bonne voie. Comment recomposer les secteurs d'activité économique, comment croiser l'information, et comment aussi, parce que c'est un défi, être compétitif. Parce qu'on le sait bien aujourd'hui, il est très difficile, et c'est un peu l'expérience que j'ai croisée en travaillant un tout petit peu sur le sel de Guérande, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient prêts à donner, parce que c'était la solidarité, des gens qui travaillent durement le sel, et je les comprends. Et puis il y a des gens qui sont prêts à prendre. Et ceux qui sont prêts à prendre vont travailler sur des systèmes complexes, la normalisation, les barrières invisibles en termes de protectionnisme, vont dénigrer les produits qu'ils ont copiés, etc., etc. Et là, on ne peut plus être celui qui se lave les mains parce qu'il n'est pas dans cette histoire, parce qu'il réfléchit sur cette histoire, parce qu'il vit autrement. C'est-à-dire que quand moi j'ai travaillé sur le sel de Guérande, mon problème c'était de me dire... C'est déjà génial qu'on ait pu régénérer cette activité, que ça ne soit pas devenu une zone de promotion immobilière. Et deuxièmement, comment faire en sorte pour qu'elle vive, qu'elle se pérennise, qu'elle ne soit pas tuée à l'extérieur. Et qu'est-ce qui peut la menacer? Et comment on peut contrer ça? Moi, mon secteur d'expertise se situe exactement et pas plus dans ce périmètre. Mais c'est vrai qu'en allant sur ce périmètre, et c'est les leçons que j'en tire, c'est tout ce que je dois voir. Et les dialogues qu'il faut construire pour ne pas faire n'importe quoi, pour essayer de rester dans une logique d'équilibre, je reprends l'exemple du Pays Basque, ce n'est pas évident. Bien sûr qu'il faut exporter, bien sûr qu'il faut développer. Jusqu'à quel niveau? Comment ne pas dénaturer l'image d'un produit initial, etc. Donc ce sont des situations complexes aujourd'hui. La pire des situations, c'est la vision verticale de chacun. Chacun dans son coin, le porte-monnaie, la réflexion, l'expertise, etc., de ne jamais croiser ses connaissances et d'atomiser les objectifs. Je pense qu'un des problèmes français, c'est souvent, hélas, d'en rester là, si vous voulez. Alors que nous sommes confrontés au monde extérieur. Nous sommes confrontés à des stratégies très, très prédatrices venant du monde extérieur, avec des gens qui ne se posent aucun problème humaniste, en finalité, et qui savent parfaitement le masquer. Je conclurai sur une chose, on a fait un travail cette année pour étudier le discours welfariste atteignant des produits agricoles, en essayant justement de faire la part des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait de constructif à l'intérieur et qu'est-ce qu'il y avait de destructif. Eh bien, le travail qu'on fait pour des coopératives agricoles, pas pour des firmes multinationales, c'est de montrer justement que ce n'est pas simple. Que ce parasitage informationnel-là, il ne faut pas jouer les Ponce Pilate et s'en laver les mains sous prétexte qu'il n'y a pas de normes scientifiques pour l'étudier. On peut l'étudier. Il y a des orchestrations informationnelles. Quand on attaque le lait, ce n'est pas tout à fait un hasard. Bien sûr qu'on peut trouver des problèmes et il faut les étudier concernant le lait. Mais il y a d'autres acteurs qui ont tout intérêt à dénaturer le lait en France, pour ne prendre que cet exemple. Et c'est vrai que quand on travaille sur ces sujets-là, la pire des situations, c'est de que chacun soit dans sa tour d'ivoire, enrobé de son savoir, et en ne regardant pas ces réalités. Parce que le résultat, eh bien, c'est qu'on a une chance extraordinaire en France d'avoir une économie de subsistance depuis plusieurs milliers d'années, qu'elle est en train de disparaître, et que si on ne réfléchit pas sur cette réalité-là, eh bien, nous aurons de mauvaises surprises. Voilà le petit témoignage que je voulais apporter.